Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'Esprit. Et nous allons lire dans Actes chapitre 13 à partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Nous poursuivons sur le thème de la vie de l'Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre très riche qui nous enseigne comment les premiers chrétiens vivaient l'action du Saint-Esprit. Et nous croyons que ce modèle qui a été laissé dans le livre des Actes des Apôtres est toujours d'actualité. C'est pour nous une référence vers laquelle nous nous tournons pour voir comment l'Église doit avancer. On a vu plusieurs exemples la semaine dernière, notamment on a parlé de la fondation de l'Église d'Antioche, c'était donc il y a 15 jours plutôt, l'Église d'Antioche, où on voit que cette Église a marché dans la vie de l'Esprit dès sa naissance avec l'exercice des dons spirituels, comme on l'a vu la dernière fois. Et c'est donc la suite, en fait, puisque ses disciples vont partir d'Antioche, cette église-là dont on a parlé, qui est née sous l'action de l'Esprit, où il y a eu des paroles, des prophéties concernant la mission. Et c'est là qu'on trouve le premier voyage missionnaire avec Paul et Barnabas. Si vous vous rappelez, on avait vu que c'était pendant un temps de jeûne et de prière que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de Paul et de Barnabas de quitter cette église où ils servaient pour prendre le départ et partir annoncer la parole de Dieu dans la mission. La mission. La vision missionnaire n'existait pas vraiment dans l'Église encore à l'époque. C'était la première fois qu'il y avait cet élan missionnaire, c'est-à-dire de quitter son Église pour aller porter la parole de Dieu au loin. Alors, ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a lu au verset 4. Barnabas et Saul, qui ont été appelés dans ce temps de jeûne et prière, ont été envoyés par le Saint-Esprit. Une petite parenthèse ici, l'Église a prié pour eux et les a envoyés, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis dans leur cœur la direction de partir. Il faut les deux. Il faut l'approbation de l'Église, mais il faut l'approbation du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un départ parce qu'il faut partir, mais c'est conduit par le Saint-Esprit. Donc ils partent. Ils partent d'Antioche, de Syrie en bateau pour l'île de Chypre. Mais ce que je remarque, dès le début de ce premier voyage missionnaire, on pourrait dire « Dieu est avec nous, les portes vont s'ouvrir et tout va bien se passer ». Mais dès le début, il y a eu de l'opposition. Dès la première annonce de la parole de Dieu, il y a eu des obstacles. Il y en a qui se sont dressés contre eux. Ils devaient continuer à avancer dans l'opposition. Donc vous pouvez très bien être envoyé par le Saint-Esprit, avoir l'approbation de l'Église, partir, mais rencontrer des obstacles et de l'opposition, parce que l'ennemi se dresse contre ce voyage. Les apôtres ont bien compris que c'était l'ennemi. Ils n'ont pas dit « Oh, c'est un peu trop dur, on va rentrer à Antioche ». Non, ils ont compris que c'était la mission pour eux, et ils sont allés de l'avant malgré l'opposition. Donc sachez que quand vous rencontrez de l'opposition, c'est un signe aussi que vous faites la volonté de Dieu, parce que l'ennemi n'aime pas qu'on avance dans les chemins que Dieu a prévus pour nous. Donc il va dresser des embûches, il va dresser des obstacles. Il ne faut pas s'effrayer, il ne faut pas s'inquiéter, mais continuer à avancer. Le premier point, c'est donc l'attraction de la parole de Dieu. L'attraction de la parole de Dieu, pourquoi ? Parce que Paul et Barnabas sont envoyés en mission pour parler de la parole de Dieu. Et donc, ils vont prêcher la parole. Et ils vont la prêcher à un homme qui s'appelle Sergius Paulus, qui est dit que c'était un homme intelligent, cultivé. Mais voyez-vous, l'intelligence, qui est une bonne chose, et c'est bien d'avoir une grande connaissance et de faire des études, pas de problème. Mais en fait, la connaissance n'apporte pas la réponse à toutes nos questions. Il y a beaucoup de questions que nous avons encore dans notre esprit qui n'ont pas de réponse avec ce que la science propose ou ce que la philosophie de ce monde propose. Il y a beaucoup de questions sur le sens de la vie, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et en fait, vous pouvez avoir une grande connaissance, mais un cœur vide, parce que si Jésus n'est pas dans votre cœur, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Et même si vous dites que Dieu n'existe pas, quel est le sens de la vie si Dieu n'existe pas ? À quoi ça sert qu'on soit sur la terre si Dieu n'existe pas ? Si la vie passe et puis on meurt et il n'y a plus rien, alors ça n'a pas de sens. Alors c'est Dieu qui donne à chacun la capacité de la réflexion, et merci Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée, la réflexion, mais ce n'est pas l'intelligence qui va vous rendre heureux ou qui va vous communiquer la paix ou qui va vous communiquer le bonheur. Ce n'est pas cette intelligence-là. D'ailleurs, plus le savoir augmente, vous avez remarqué que le savoir augmente de plus en plus ces dernières années, mais il paraît qu'il double, tous les 7, 8, 10 ans, le savoir double, tellement la connaissance augmente. Mais remarquez qu'en même temps que le savoir augmente, à la fois il y a des progrès technologiques, mais à la fois il y a des progrès pour faire le mal, puisqu'on arrive avec l'intelligence à concevoir des armes qui peuvent détruire toute la planète. L'intelligence a progressé dans le bien et dans le mal. Et votre cœur ne sera pas comblé par votre grande connaissance, parce que la connaissance, elle, vous laissera sec et vide. Votre cœur a besoin d'autre chose dans le psaume 107, verset 9. Il est écrit « Car il, c'est Dieu, il satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Il n'y a que Dieu qui peut arriver à combler votre cœur, à satisfaire votre âme, parce que votre âme, elle a besoin d'autre chose que de la connaissance. Elle a besoin de Dieu. Voilà pourquoi tant de gens sont malheureux aujourd'hui. Voilà pourquoi il y en a tant qui cherchent ailleurs des solutions. Parce qu'ils cherchent dans la connaissance, c'est-à-dire dans la réflexion, mais ils ne cherchent pas dans la parole de Dieu. Alors Sergius Paulus, qui était un homme intelligent, et c'est très bien, il entend pour la première fois la parole de Dieu. Et c'est bien. Il est assez ouvert pour reconnaître que son intelligence ne suffit pas. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de la parole de Dieu. Alors il est attiré par le message de l'Évangile et il sent que son cœur va se réchauffer. Pourquoi ? Parce que sa grande connaissance ne lui avait pas apporté la paix. Il cherchait autre chose. Et la parole de Dieu va être pour lui une source de bénédiction. Les gens étaient attirés par Jésus à cause de ses paroles. Non pas parce qu'il donnait une grande explication ou une grande connaissance, mais il apportait la vie dans les cœurs. Vous voyez, un jour, par exemple, Jésus était assis au bord du puits. Une femme samaritaine venait puiser de l'eau. Jésus dit à cette femme, « Donne-moi à boire. » C'était une femme samaritaine. Or, les Juifs, comme Jésus était, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, la femme ne comprend pas comment, toi qui es juif, tu t'adresses à moi qui suis une femme samaritaine. Alors, Jésus lui dit dans Jean 4, 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus ne sont pas simplement pour nourrir votre intelligence, mais pour nourrir votre cœur, et ça va devenir une source d'eau vive dans votre vie qui va jaillir et qui va produire des bénédictions. Voilà ce que Jésus propose. Depuis la croix, lorsque Jésus est mort en sacrifice, ce n'était pas pour lui qu'il est mort, il a porté nos péchés. La Bible dit qu'il attire maintenant tous les hommes à lui, c'est dans Jean 12, 32. « Moi, quand j'aurai été élevé », là il parle de son sacrifice sur la croix, il a été élevé sur la croix, il a été crucifié, « j'attirerai tous les hommes à moi ». Et en ce moment, nous vivons l'ère de la grâce où nous pouvons nous approcher de Jésus par la foi. Mais j'attirerai, il y a la grâce qui est là. La grâce, elle nous pousse dans la bonne direction. Dieu ne vous forcera pas à venir à Jésus, mais vous êtes attiré dans la bonne direction. Vous êtes attiré vers le Christ par la grâce de Dieu. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous convertir. À un moment donné, c'est votre décision personnelle, c'est-à-dire vous devez vous repentir de vos péchés et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Seul vous-même, dans la prière, pouvez donner votre cœur au Seigneur. Mais néanmoins, la grâce de Dieu est là. La grâce était pour donc cet homme intelligent. La grâce est pour chacun de nous. Elle nous attire dans la bonne direction. Après, il y a le pas de foi à faire. Le deuxième point que je vois dans ce texte, c'est immédiatement après l'annonce de la parole, la grâce de Dieu est là, le cœur de cet homme est touché, l'opposition se manifeste. L'opposition à la parole de Dieu. Dès que la parole est annoncée, il y a un certain Élimas, le magicien, qui réagit. Tant qu'on ne parlait pas des choses de Dieu, on parlait de généralité, il disait trop rien, il restait dans son coin. Mais dès que vous annoncez la parole, la croix, le salut, le magicien réagit. Pourquoi ? Parce qu'il est plein des œuvres des ténèbres et il n'accepte pas la parole de Dieu. Alors, Marc chapitre 4, verset 14, je vous donne cet exemple, c'est Jésus lui-même qui en parle lorsqu'il parle dans la parabole des semeurs des quatre terrains, mais je vais m'intéresser juste à la semence semée le long du terrain. Il dit, les uns sont semés, les uns sont le long du chemin. Il s'agit ici des semences. Le semeur est parti, il a jeté sa semence, mais il y en a qui tombent le long du chemin. La parole est semée là. Donc, il s'agit de la semence. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, qu'est-ce qui se passe ? Une réaction spirituelle. Le diable s'oppose à la parole de Dieu. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes dans un combat. Vous allez témoigner à quelqu'un, vous allez partager la parole, vous allez donner, offrir la parole de Dieu. Mais aussitôt, quand vous faites cela, il y en a un qui agit dans les ténèbres, qui se dresse pour venir enlever, détruire, abattre tout ce que vous avez semé, planté. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est l'adversaire. Et c'est pourquoi il agit vite, parce qu'il sait qu'il a peu de temps, parce que si cette parole pénètre dans un cœur, ça va aboutir à une conversion, la personne sera sauvée et le diable, il perd une âme. Donc, pourquoi il réagit ? Parce qu'il est en train de perdre des âmes. Le diable, donc, sait qu'il doit agir aussitôt. Alors, ne soyez pas surpris, frères et sœurs, si vous témoignez à quelqu'un, vous parlez de Jésus, vous donnez une Bible, qu'il y ait une opposition qui se manifeste, parce que l'ennemi n'accepte pas. Ne soyez pas troublés. Le malin, il vient pour enlever la parole. Dès que Paul annonce la vérité, il y a comme un esprit de mensonge qui réagit dans Élimas. Par contre, ce que Paul fait, c'est qu'il va fermer la bouche au magicien. Il ne va pas le laisser s'exprimer, raconter ses histoires, mais il va lui faire fermer la bouche par une parole d'autorité. Et ça, c'est quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est l'autorité dans le nom de Jésus d'annoncer les vérités. Alors, nous sommes dans un monde qui est dominé par le prince de ce monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous sommes dans ce monde-là. Le malin domine. Sa tâche principale, c'est vraiment d'aveugler les pauvres créatures. 2 Corinthiens 4, 3, c'est Paul qui le dit. Si notre évangile est encore voilé, Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, alors le Dieu de ce siècle, Paul, il parle ici de Satan, c'est le diable, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous venons avec la lumière, nous venons avec la parole de Dieu, nous venons avec l'évangile. De l'autre côté, il vient, lui, l'ennemi, le Dieu de ce siècle, on pourrait dire le prince de ce monde, on pourrait dire Satan, le diable, il vient avec ses ténèbres pour aveugler les personnes et les maintenir dans l'esclavage. Mais Paul ne va pas laisser les choses ainsi et à un moment donné, il va donner une parole d'autorité. Sergius Paulus, lui, il ne pouvait pas être sauvé par ses raisonnements parce que nos raisonnements, c'est comme des forteresses. À un moment donné, il vous faut la foi, il vous faut croire que la Bible, c'est la vérité. Ce n'est pas par l'intelligence qu'on est sauvé, la Bible dit, mais c'est par la foi. Ça, c'est dans Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvé. La grâce, on va dire, c'est la part de Dieu. C'est comme si Dieu vous tend la main. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvé. C'est-à-dire que la grâce, elle précède toujours la foi. Vous ne pouvez pas croire s'il n'y a pas la grâce. La grâce, elle est déjà là. La grâce, c'est Jésus qui l'a instaurée. La grâce que vous êtes sauvé, mais par le moyen de la foi, et ça c'est notre part, c'est de croire. Il ne dit pas c'est par le moyen de notre intelligence, de notre connaissance, de notre savoir, comme c'était le cas de Sergius Paulus, un homme intelligent. Mais il devait maintenant exercer la foi et croire de tout son cœur que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Et il dit « cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui permet tout cela, c'est Dieu qui accorde sa grâce, c'est Dieu qui accorde toutes ses bénédictions. » Bon, on va dire que c'est accessible à tous, parce que la grâce, elle est déjà là, mais la foi, elle est personnelle, elle est individuelle et elle doit être exercée par chacun. Donc ne soyez pas surpris quand survient l'opposition. Le proconsul désire entendre la parole de Dieu, mais Élimas ne veut pas que le proconsul se convertisse. Donc il va tout faire pour détourner, le texte dit, il cherchait à détourner la foi du proconsul, c'est-à-dire à l'empêcher de croire, à l'éloigner de Dieu. Voilà dans quel combat nous sommes, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons prier quand nous témoignons, nous devons même jeûner, prier, chercher la face de Dieu et nous attendre à l'action bénie du Seigneur sans laquelle nous ne pourrons rien faire. Peut-être vous êtes découragé parce que vous avez témoigné, vous avez parlé du Seigneur, vous avez donné des versets et il y a une opposition, il y a des obstacles. Mais ne soyez pas découragés, soyez au contraire déterminés, parce que ce n'est pas terminé, Dieu n'a pas dit son dernier mot, et il va agir, il va manifester sa puissance. Nous, notre part, c'est de témoigner, c'est de prier. L'ennemi, lui, va combattre, mais ne nous décourageons pas. Regardez le combat dans lequel nous sommes, ça c'est Paul, dans Éphésiens 6, il nous prévient, il nous dit, voilà, le combat, il est là, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Éphésiens 6, 12. Donc, on ne doit pas lutter contre des personnes, si vous voulez, contre des gens. C'est comme derrière ces gens, il y a des puissances. Alors, il dit, mais contre des dominations, des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous devons comprendre que derrière cette opposition, là, ici, du magicien, qui s'appelle Élimas, il y a des puissances spirituelles invisibles. Et Paul les connaît, Paul sait de quoi il parle. Et nous, nos armes, elles ne sont pas charnelles pour attaquer, pour faire du mal, mais elles sont spirituelles dans la prière et dans la foi. Notre combat ne doit pas faiblir jusqu'au retour du Seigneur. Et nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu et prendre les armes de Dieu, entre guillemets. Il y a un combat spirituel, ce combat, nous ne pouvons pas le remporter avec nos forces. Je termine avec un dernier point, c'est la puissance maintenant, la puissance de la parole. Puisque Paul est nourri de la parole de Dieu, il y a deux conséquences que je remarque. Un, il est rempli du Saint-Esprit, et ça c'est ce que nous devons rechercher, mais il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu constamment et chercher la présence du Saint-Esprit. Vous avez un équilibre dans la vie spirituelle entre la parole et la vie de l'esprit. Et il nous faut les deux, c'est un peu comme deux jambes. On marche sur ces deux jambes, il nous faut nous nourrir de la parole et la vie de l'esprit, la prière, la recherche de Dieu. Alors Paul, il a les deux. Donc, Il est rempli du Saint-Esprit et puis il n'est pas surpris quand l'opposition se dresse contre lui. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la parole est en nous, on a des armes, on a de quoi répondre quand la parole se dresse. Mais si vous êtes rempli, des informations, si vous êtes rempli de la colère, de la jalousie, de la pensée du monde, à ce moment-là, vous n'aurez pas les armes nécessaires pour réagir. La parole de Dieu nous transforme. Regardez 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, il parle ici des chrétiens, nous tous, les chrétiens, le visage, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. La parole en nous va faire des transformations. Nous allons être transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Quelle grâce, quelle bénédiction. Dieu vous donnera des paroles inspirées, parce que Paul n'avait pas prévu de dire de telles paroles. Il dit même des paroles assez dures, puisqu'il va dire au verset 10, il s'adresse à Élimas, et c'est là qu'on voit que c'est une parole de Dieu et une parole d'autorité. Il lui dit « Homme plein de ruse, de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable », il va fort quand même dans ses propos, mais c'est spirituellement, il voit les choses d'une manière spirituelle. « Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Donc, ces paroles-là ne viennent pas de Paul, elles sont inspirées par le Saint-Esprit au moment du combat spirituel qu'il traverse. Frères et sœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on a la parole en nous, ce sont les paroles d'autorité qui viendront sur notre bouche. C'est le Saint-Esprit qui les mettra dans notre bouche. Que Dieu nous accorde sa grâce. Le Saint-Esprit a saisi Paul. Et la parole, ça va être comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc ?» Ces paroles puissantes, elles ne viennent pas par hasard. Elles viennent d'une vie qui est consacrée au Seigneur. Plus vous serez proche du Seigneur, plus il va mettre dans votre bouche les paroles qui conviennent et ce qui est bon. Vous aurez des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de foi, des paroles d'autorité. Tout ça, c'est nourri dans votre cœur et c'est nécessaire pour contrer les actions du malin qui se dressent contre la parole de Dieu. Alors nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Mais il n'y a pas d'autre moyen de vaincre parce que comme le combat est spirituel, nous ne pouvons pas vaincre sans l'aide du Seigneur. Le combat spirituel, c'est avec les armes spirituelles. C'est arrivé au jeune David, alors qu'il était simple berger, il a été interpellé par les paroles violentes de ce géant Goliath à tout Israël pour menacer Israël. Et il s'est proposé d'aller le combattre en combat singulier. Mais lorsque le roi a vu ce jeune homme, malgré la foi de David, il a dit « Mais tu ne peux pas aller te battre contre ce géant. » Alors, il a eu l'idée de revêtir David de ses armes. Il lui a mis son casque, il lui a mis son armure, il a mis son bouclier, il a mis son épée. Mais c'était tellement lourd pour ce jeune David qu'il ne pouvait même pas marcher avec de telles armes. Ce n'était pas ses armes à lui. C'était les armes d'un autre, de Saül. Et dans le combat spirituel, vous ne pouvez pas partir avec les armes d'un frère, d'une sœur. Vous devez partir avec vos armes, c'est-à-dire la foi, la confiance en Dieu, l'autorité que Dieu vous donne. 2 Corinthiens 10:4, voilà ce que dit Paul, « Les armes avec lesquelles nous combattons. » Donc, il y a bien des armes qui existent, on ne les voit pas avec nos yeux. Elles ne sont pas charnelles. On va dire qu'elles sont spirituelles, elles sont invisibles. D'accord, mais regardez ce qu'il dit, « Mais elles sont puissantes. » Vous ne les voyez pas avec vos yeux, elles sont invisibles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser une forteresse. Vous savez ce que c'est une forteresse ? C'est une tour, vous ne pouvez pas la renverser. Vous ne pouvez pas faire tomber un château en entier. Mais par ces armes, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Ça, c'est impossible sur le plan humain, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Que son nom soit béni. Prenons ces armes, frères et sœurs. Ce magicien, oui, il avait de la puissance. Il était capable d'aveugler. Il était capable de détourner le proconsul de la vérité. Mais nous avons une autre puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, qui se trouve dans la relation avec notre Seigneur, et c'est dans la foi que nous allons utiliser ces armes. Et ces armes sont plus puissantes que les armes de l'adversaire. Il nous faut les utiliser. Il ne faudrait pas que Paul reste là, les bras ballants, laisser le magicien continuer et détourner le proconsul et que le proconsul il aille en enfer. Non, il a réagi avec les armes de Dieu. Alors, on ne peut pas empêcher l'adversaire de se manifester parce que c'est sa part. Mais nous, nous pouvons prier pour arrêter ses agissements et pour que l'œuvre de Dieu se fasse malgré ses agissements. Et le proconsul crut à la fin. Donc on voit qu'il y a eu un effet de cette parole d'autorité au verset 12. « Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. » C'est-à-dire, il a mis sa foi en Dieu. Il a vu, il a été témoin de la puissance de Dieu. Alors il a cru, et ça c'était sa part. On va dire que Paul a fait sa part, c'était le témoignage. Il a porté la parole de Dieu, il a semé la parole de Dieu. Il a pris une parole d'autorité pour briser toute opposition des limaces. Et puis maintenant, la part du proconsul, c'était de dire « je crois, je donne ma vie au Seigneur. Maintenant, fais de ma vie ce que tu veux. » On va conclure. On a vu Paul qui obéit au Saint-Esprit, qui part dans un voyage missionnaire, qui se retrouve dans une opposition. Nous ne devons pas être surpris de voir se dresser contre nous une opposition. Mais Dieu a prévu pour nous des armes et des paroles d'autorité. Si nous sommes remplis du Seigneur, si nous aimons la parole de Dieu, si nous avons cette relation avec le Saint-Esprit, alors les paroles viendront sur notre bouche et ces paroles-là anéantiront tous les plans de l'ennemi. Laissons-nous porter par le Saint-Esprit pour porter ces paroles. Alors si l'ennemi fait tout pour détourner des personnes de votre entourage, les éloigner de Dieu, ne soyez pas découragés, restez dans la foi, recherchez la face de Dieu, les paroles que le Saint-Esprit mettra sur votre bouche, dans la prière, proclamez la parole de Dieu et les vérités de Dieu. Comme Paul, nous pouvons connaître ces trois choses. D'abord, l'attraction de la parole qui va toucher les cœurs et qui est vraiment la réponse aux besoins, au vide, à la sécheresse spirituelle. Deuxièmement, l'opposition à la parole qui se dressera toujours parce que l'ennemi ne veut pas perdre des âmes. Et troisièmement, la puissance qu'il y a dans la parole et dans l'autorité que Dieu donne à ses enfants pour combattre le véritable combat spirituel. Que Dieu nous aide. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole qui nous montre le chemin pour, Seigneur, prendre autorité contre les œuvres du prince des ténèbres. Oui, Seigneur, tu nous as revêtus de ton esprit, tu nous as envoyés, tu as fait de nous des témoins. Nous voyons combien les obstacles sont nombreux, combien l'ennemi déploie sa puissance pour empêcher l'avancement de ton œuvre. Mais nous voulons saisir ta parole qui est l'autorité suprême. Nous voulons, Seigneur, par ton esprit proclamer les vérités. Nous laisser, Seigneur, remplir de ton esprit pour donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles d'autorité, comme Paul a pu saisir à cet instant-là l'autorité qu'il avait dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de confirmer dans nos cœurs que nous avons cette autorité d'en haut pour anéantir tous les plans, les projets du malin, pour détruire tout ce que l'ennemi a semé et pour permettre que le royaume de Dieu s'implante dans les cœurs. Oui Jésus, fais ton œuvre dans les cœurs et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire.